Bon, mon sujet, le titre qu'on m'a donné, c'est « Avançons ensemble, seuls ou mariés, pour le meilleur ou pour le pire ». Je crois qu'il a dit « Le sujet sera traité pour le meilleur ou pour le pire ». Mais par rapport à ce sujet, on m'a demandé d'aborder les thèmes de la famille monoparentale, le veuvage et les couples mixtes, c'est-à-dire les couples où l'un des conjoints ne partage pas la foi de l'autre, ou peut-être même est d'une autre, ou n'est pas du tout croyant, ou est d'une autre confession. Ce que j'aimerais faire, c'est pas ce que vous attendez peut-être de cette étude, c'est que j'aimerais présenter un principe que j'apprends depuis quelques semaines. En effet, c'est un principe par lequel nous vivons tous depuis notre conversion, j'espère. Mais c'est un principe que je n'avais jamais entendu expliquer de cette façon, qui était traité par un frère des États-Unis dans une étude en Allemagne au mois de février. C'est le principe de l'alliance. Et ce principe, je trouve, après beaucoup de réflexions, je fais des études là-dessus à Lyon maintenant, doit gérer toutes les démarches de notre vie, dans toutes circonstances, que ce soit individuellement ou collectivement. Et bien sûr, aussi, ça doit gérer, ce principe doit gérer la vie du célibataire, la vie du parent, le parent seul dans un foyer, la personne qui a perdu un conjoint, soit par la mort, par le divorce, et aussi dans les couples mixtes. Ce que j'aimerais faire pour introduire ce principe, c'est vous citer le texte où Jésus, la nuit de son arrestation, lors de l'institution du repas du Seigneur, a dit ceci, c'est en Matthieu 26, versets 27-28. Il a pris la coupe, et en prenant la coupe, il a dit, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Et chaque fois que nous sommes ensemble, le dimanche, nous prenons ensemble le repas du Seigneur, et chaque fois que nous prenons la coupe, nous sommes en train de nous rappeler justement ce sang de Jésus qui nous a lavé de nos péchés. Mais j'espère aussi, et c'est ça que j'essaie de me mettre dans ma tête, et j'espère pour nous tous, de nous rappeler que ce sang aussi nous a mis en alliance avec Dieu. Une alliance qui fait que notre vie soit transformée, qu'on soit des personnes différentes d'avant, qu'on soit des personnes qui soient plus dévouées au Seigneur. Et pour comprendre l'importance et la profondeur de l'alliance que nous avons avec Dieu à travers Jésus, nous pouvons contraster cette alliance-là avec le modèle humain d'interaction. Et là encore, ceci n'est pas original avec moi, c'est avec ce frère qui a présenté cela, mais je le trouve très bien. Il y a trois sortes d'interactions humaines qui gèrent notre vie. Il y a d'abord, bien sûr, le conflit, qui est bien sûr contraire à l'alliance. Mais à travers les conflits, ce que j'ai marqué sur la feuille, c'est que je satisfais mes intérêts au profit des vôtres. C'est toujours le cas dans un conflit, que ce soit quelque chose de banal, que ce soit quelque chose d'agressif, même violente. C'est toujours en vue de profiter de l'autre. Et puis, il y a l'interaction de contrat, où je fais des compromis. Mais en fin de compte, je l'ai fait afin de satisfaire mes intérêts en me servant des vôtres. Et ce qui se passe, c'est que dans les deux cas, le conflit et le contrat, l'égoïsme, est à la base de l'interaction. Donc ce n'est pas quelque chose de désintéressé, c'est toujours quelque chose en vue de profiter de l'autre pour satisfaire ses propres besoins. Donc c'est l'égoïste. Et puis, ce que nous avons en Jésus-Christ, c'est quelque chose d'infiniment mieux qu'un conflit, qu'un contrat. La troisième interaction humaine, c'est justement l'alliance de mariage, du mariage. Et l'alliance du mariage, bien sûr, le mariage biblique, doit être fait à l'exemple de l'alliance que nous avons avec Dieu, nous tous, à travers notre conversion au Christ. Mais le but de l'alliance du mariage, comme avec mon alliance avec Dieu, est que mes intérêts fusionnent avec les intérêts de ma femme pour que notre relation soit transformée. Et ni l'un ni l'autre n'est jamais le même désormais jamais le même à cause de cette transformation, parce que maintenant nous ne sommes plus deux individus, nous sommes maintenant une personne, nous formons une personne, nous formons une seule chair. Mais il faut noter que le principe de l'alliance dans le mariage est diamétralement opposé à l'idée de contrat de mariage qui est proposé actuellement en France et peut-être dans d'autres pays aussi. L'alliance est aussi différente que le pax. Le pax qui, où deux personnes établissent un contrat pour vivre ensemble, que ce soit le concubinage, que ce soit les relations homosexuelles. Dans ces deux sortes de contrats conjugaux, si on peut les appeler les contrats conjugaux, il y a toujours le problème de l'égoïsme, où chaque partenaire fait des compromis, peut-être, mais en même temps se protège. Il se protège toujours en vue de satisfaire ses propres intérêts en se servant des intérêts de l'autre. Donc on voit encore ce problème de l'égoïsme qui ressort. Encore, l'idée de l'alliance permet une transformation réelle dans le couple qui vient de deux êtres fusionnés en un être seul. Et cette transformation est possible à cause de la vulnérabilité qui vient de la confiance. Il y a vulnérabilité car l'un et l'autre prend le risque de s'ouvrir pour être plus transparent. Et là où il y a vulnérabilité, il y a plus d'intimité. Et cette intimité, c'est ça qui permet la transformation de l'un pour que l'un devienne de plus en plus comme l'autre. On va donner un exemple concret. Je ne sais pas si vous avez remarqué ceci, mais je l'ai remarqué qu'avec des couples qui ont été ensemble depuis quelque temps, c'est-à-dire des couples depuis 40 ans par exemple, 40 ans n'est-ce pas? Regardez bien les noblés. Parce que vous allez voir qu'ils ont parfois des sourires qui sont les mêmes, des grimaces qui sont les mêmes, les expressions, la façon de parler, même la façon de tenir le corps. Pourquoi? Parce que dans leur intimité de relation, dans leur alliance de mariage, ils sont devenus de plus en plus l'un comme l'autre. Ils se sont fusionnés dans ce sens-là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ça avec d'autres couples, je le remarque. Et ça, c'est un exemple assez concret, à mon avis. Mais la confiance qui existe dans une alliance est le contraire de ce qui existe dans un contrat où il y a souvent méfiance et, bien sûr, l'égoïsme. Donc, notre alliance avec Dieu, bien sûr, est de loin supérieure à l'alliance de mariage. Et pourtant, c'est Dieu qui a créé le mariage. En effet, le mariage, à mon avis, c'est l'exemple dans un sens de ce que doit être notre relation avec Dieu. Et c'est pourquoi c'est tellement important que nos mariages soient fermes et forts, pour qu'on soit l'exemple qu'il faut devant le monde. Mais la question quand même est celle-ci. Comment cette transformation arrive-t-elle à travers notre alliance avec Dieu? Bon, maintenant, je reste avec une petite explication de ce principe et puis on va appliquer ça dans un moment. Dans son sermon sur la montagne, et bien sûr dans ses autres enseignements, mais on le voit surtout dans son sermon sur la montagne, Jésus a adressé la question de comment être transformé. En même temps, il nous a avertis contre les choses qui peuvent empêcher l'effet transformateur de cette alliance en nous. Par exemple, la toute première chose qu'il a dite dans le sermon sur la montagne, c'était quoi? Quelqu'un peut me dire?
Pauvre en esprit.
Ok, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Chapitre 5, verset 3. Donc dans cette première attitude, Jésus a présenté le contraire de ceux qui se croyaient justes et bons spirituellement par leurs œuvres, par leurs actes externes. C'est-à-dire eux qui se croyaient supérieurs spirituellement ou qui même étaient orgueilleux dans leur spiritualité. Ici, selon Jésus, c'est l'humilité qui prime devant Dieu. L'humilité qui prime devant Dieu. Donc, mon alliance avec Dieu, si je la vis sérieusement, pour moi c'est la clé de cela, de vivre, c'est le mot vivre là, si je le vis sérieusement, c'est ça qui va me donner du succès dans ma transformation. C'est la clé de ma transformation pour que Dieu puisse accomplir quelque chose en moi, pour que je ressemble de plus en plus à lui. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en Dieu. Et c'est la confiance ou la vulnérabilité qui doit être à la base de toute alliance. Donc ce qui se passe est que Jésus, dans le sermon sur la montagne, et aussi, surtout à Matthieu, on voit ceci, et je suis en train d'enseigner l'évangile selon Matthieu ce moment à Lyon, et je suis frappé par le nombre de fois que Jésus contraste ce qu'il attend de ses disciples avec les pharisiens. Et ce qui se passe, c'est que Jésus nous appelle à une justice, à une droiture plus juste que les pharisiens. Les pharisiens, à les entendre, qui étaient les super spirituels de l'époque. Le problème est que les pharisiens étaient l'exemple parfait d'une voiture externe, un système de mérite ou de pratique non lié au cœur. Voilà le problème, voilà le paradoxe. Ne considérez que les choses externes, mais ne change pas à l'intérieur. Mais comment la droiture d'une personne ordinaire, si on peut dire comme cela, non pharisien, peut-elle dépasser celle des pharisiens, ceux qui se vantaient d'avoir une meilleure connaissance de Dieu? Mais la personne ordinaire peut dépasser la droiture des pharisiens par son humilité, première chose que Jésus a dit dans le sermon, et en laissant son désir d'une plus profonde intimité avec Dieu déterminer sa conduite. Donc l'humilité est pour le désir de laisser Dieu le transformer, d'avoir une intimité avec Dieu. Cela veut dire que si notre but n'est pas une relation plus intime avec Dieu, et à nous ressembler davantage à lui, nous risquerons de tomber dans le piège des formes de droiture superficielle. Et ça, c'est le danger de nous tous, et je crois que c'est un problème avec moi, beaucoup de fois. Je veux avoir l'apparence d'avoir fait plaisir à Dieu. Donc, soyons plus concrets dans ce que cela veut dire. Je vous invite à prendre juste deux textes dans Matthieu chapitre 5, On ne veut jamais rester à un niveau superficiel. On veut aller plus profond, on veut avoir une droiture plus profonde, plus droite, plus juste que la droiture des pharisiens. Et le premier texte, c'est au chapitre 5, verset 21, et seulement une partie de verset 22, où Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet de meurtre sera passible de jugement. » Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Et après, il parle d'insultes et tout cela. Bon, qu'est-ce que Jésus fait ici? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité la loi de Moïse. Mais de son propre autorité, on peut dire de son autorité messianique, mais aussi de son autorité divine, il est allé plus profond que la loi, pour montrer que ce que doit être l'attitude du cœur derrière la loi, ou on peut dire l'intention de la loi, ou comme on a vu hier, je crois, ce devait être au commencement, ce que Dieu attendait depuis toujours de ses êtres. Pour Dieu, cela ne suffira pas de ne pas tuer si j'ai de la colère ou de la haine dans mon cœur contre mon frère. Verset 27-28. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Il fait la même chose. Il cite le commandement de Moïse, mais il est allé plus profondément pour montrer que l'attitude du cœur doit être juste. Il ne suffit pas, comme les pharisiens auraient fait, ou comme le jeune homme riche qui a consulté Jésus, il ne suffit pas de garder la loi, c'est-à-dire de garder le commandement, de dire « je ne commets pas d'adultère » si j'ai quand même dans mon cœur un désir illégitime pour la femme d'un autre. Jésus veut que j'aille plus loin que seulement le commandement. Il veut que ce soit quelque chose à l'intérieur. Et quand j'arrive à avoir quelque chose d'intérieur, à l'intérieur, c'est là que je vais être transformé pour être de plus en plus comme lui. Mais ma vie spirituelle, parce que je suis en alliance avec Dieu, sera à la fois plus facile et plus difficile qu'une religion basée sur les rites et les règles, comme c'était le cas des pharisiens. Je le trouverai plus facile à observer ces commandements, les commandements de Jésus, bien qu'ils soient exigeants, parce que je veux le faire. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je veux le faire. Je m'oblige à le faire. Mais il sera quand même plus difficile pour moi, dans le sens que suivre Jésus exige que j'accomplisse les intentions de ses commandements et pas seulement la lettre. Car les intentions de ses commandements ont toujours pour but de me transformer et de vous transformer aussi. Autrement dit, parce que je me rends compte de l'importance de mon alliance avec Dieu à travers le sang de Jésus-Christ, je me rends compte de ce que cela lui a coûté, cette alliance qu'il a donnée, qu'il nous a offerte. Je me rends compte de cela, et à cause de cela, mon alliance avec lui est plus profonde, plus réelle, parce que je veux faire ce qu'il veut, malgré les difficultés que cela me pose. Donc parfois, ce serait difficile à le faire, mais je veux le faire quand même, parce que c'est sa volonté. Donc j'ai confiance qu'en faisant sa volonté volontairement, et peut-être ça c'est le mot qu'il faut employer, volontairement, je serai transformé afin d'être de plus en plus comme lui, car c'est cela le but de l'alliance. Donc selon le principe de l'alliance, Jésus préconise une façon plus profonde de voir la religion et la vie spirituelle de tous les jours. Il attend de moi, il attend de vous une droiture plus profonde et dans un sens une droiture plus stricte que les pharisiens, que basée sur une relation plus profonde et intime à cause de l'alliance. Mes intérêts fusionnent avec les siens et ainsi ma relation est transformée et aura un effet sur toute ma conduite, sur toutes mes relations que j'ai, que ce soit avec Jacques, que ce soit avec ma femme ou n'importe qui. Selon le principe de l'alliance, donc Jésus préconise cela. La transformation totale, bien sûr, demandera du temps, mais elle arrivera continuellement et constamment aussi longtemps que mon désir et de lui faire plaisir. La clé de tout cela, c'est de chercher volontairement à ce que mes intérêts fusionnent avec les siens. Donc, comme a dit Jésus, n'est-ce pas, dans le jardin, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et ainsi, en toute chose que je fais, en toute circonstance où je me trouve, je me pose des questions. Et là, sur la feuille, je vous ai marqué les questions, les quatre premières questions, si vous voulez les regarder avec moi. Voilà les questions que je me pose. Comment ceci, n'importe quelle situation, n'importe quelle relation, comment ceci me transformera-t-il afin d'être de plus en plus comme lui? Que puis-je faire pour être changé en une personne plus spirituelle? Quelles doivent être mes attitudes pour que je me ressemble de plus en plus à lui? Qu'est-ce que je dois éviter ou ne pas faire afin de ne pas être empêché dans ma transformation? Bon, maintenant, par rapport à notre sujet de couple et de famille monoparentale, etc., le titre, c'est « Avançons ensemble, seuls ou mariés, pour le meilleur ou pour le pire ». C'est ce dernier mot, « pour le meilleur ou pour le pire », forme la phrase clé pour comprendre notre sujet, à mon avis, à la lumière de l'Alliance. Si notre relation avec Dieu est bonne, nous voulons avancer, n'est-ce pas? Notre seul désir, notre désir le plus profond, c'est d'avancer avec Dieu. Toujours avancer avec lui, malgré ce que cela peut nous coûter, pour le meilleur ou pour le pire. C'est comme avec un mariage, n'est-ce pas? On avance quand même, pour le meilleur ou pour le pire. La phrase avançons ensemble dans un contexte implique un effort collectif dans notre assemblée locale, ça c'est le contexte primaire, je crois, d'avoir un esprit de famille, d'avoir un esprit d'équipe, malgré les difficultés qui peuvent nous arriver, pour le meilleur ou pour le pire. Il s'agit donc, à mon avis, à ne pas baisser les bras. Mais ce n'est pas seulement rester là, on n'a pas baissé les bras, on est toujours les bras élevés comme Moïse, ou comme ça, je ne sais pas, mais on ne reste pas là, on avance quand même. Donc il y a toujours une action qui est demandée. Plus précisément, dans le contexte de vous, les familles monoparentales, les veufs et les veuves et les couples mixtes, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Où vous êtes le seul parent, où vous êtes le seul parent à cause d'un décès ou d'un divorce ou d'une séparation, ou parce que vous n'avez jamais été marié, vous avez eu des enfants hors mariage, il est toujours question de vivre votre foi sans hésitation, malgré les difficultés, selon la volonté de Dieu. C'est aussi simple que cela. C'est simple à dire, mais ce n'est pas aussi facile à appliquer. C'est ça le problème. Donc c'est là où la volonté doit entrer en jeu. Votre but est toujours de vous ressembler davantage à Jésus, en prenant vos décisions selon sa volonté. Parce que quand on le fait selon sa volonté, c'est là qu'on est transformé. Pour vous, les chrétiens qui vivent dans une situation où votre conjoint ne partage pas votre foi, votre but aussi est de toujours aller en avant dans votre foi afin d'être transformé de plus en plus à l'image de Jésus dans vos attitudes, dans vos comportements et dans vos choix. Et ça a de grandes implications. Tout cela implique, selon votre situation, qu'il y aurait donc les choix à faire à cause de votre alliance. Vous voudriez faire des choix qui se conforment à la volonté de Dieu, c'est-à-dire en vue de vous fusionner ou de fusionner vos intérêts avec les siens. Pour vous, les parents d'une famille monoparentale, pour les veufs ou les veuves, quels sont vos choix? À votre place, je poserai des questions suivantes. Et encore, j'ai marqué les questions. Dois-je rester seul ou me marier pour le bien-être, pour mon propre bien et pour le bien-être de mes enfants? Si je considère le remariage, quels sont mes choix? Qui peut être le candidat potentiel? Dois-je me déplacer afin d'avoir plus de choix? Dois-je assister aux retraites peut-être? Dois-je travailler afin d'assurer le bien-être de mes enfants? S'il y a possibilité, puis-je vivre avec mes parents afin d'arrondir plus facilement le mois? Bon, c'est une question à poser. Puis-je vivre loin d'une assemblée afin d'avoir un meilleur travail ou plus de possibilités de trouver du travail, ou dois-je éviter cela à tout prix? Pour les chrétiens qui se trouvent dans un couple mixte où le partenaire ne partage pas sa foi, quels sont les choix? Comment puis-je continuer à vivre ma foi dans mes circonstances actuelles? Comment puis-je assurer l'avenir spirituel de mes enfants? Si je n'ai pas d'enfants, dois-je en avoir? Comment puis-je influencer mon conjoint à partager ma foi? Si mon conjoint refuse catégoriquement de considérer ma foi, que dois-je faire? Est-ce que je dois rester avec lui? Comment puis-je assurer que ma foi ne s'affaiblit pas, mais au contraire qu'elle se fortifie? Et dans tous les cas, comment puis-je mieux servir le Seigneur dans mes circonstances actuelles? Encore dans toutes ces questions doivent être considérées à la lumière de notre alliance avec Dieu. Et comme j'ai dit, d'un côté, les considérer à la lumière de l'alliance rendra la solution plus facile. Parce que, sous-entendu, est le désir, et je dis bien le désir, de vraiment vouloir faire plaisir à Dieu en tout, en vue d'être transformé à son image. De l'autre côté, considérer ses choix et ses questions à la lumière de notre alliance avec Dieu rendra la tâche plus difficile, car cela nous responsabilisera et ainsi demandera certaines décisions difficiles et, bien sûr, des sacrifices. parce que peut-être il y a des choses qu'on ne peut pas faire, dont il faut renoncer pour que notre foi survive ou pour que la foi de nos enfants survive. Il y a toujours des questions importantes à considérer devant chaque choix. Là encore, on peut reposer les quatre questions que je vous ai données en premier, chaque fois que vous avez une décision à prendre. Dans mon enseignement public et en privé, comme ce matin, je préfère toujours poser des questions de façon que chaque personne s'interpelle et cherche et trouve les réponses elle-même. Même si vous me posez la question « que dois-je faire ?» Je suis marié, mais mon mari ne suit pas ma foi et il m'interdit même de venir à l'église, ou au moins il m'empêche de temps en temps. Qu'est-ce que je dois faire? Ma première réponse serait « que dit l'apôtre Paul ?» ou quelque chose comme ça. C'est poser une question. Je crois que les Écritures nous donnent les enseignements. Peut-être que c'est trop facile, vous direz, mais il faut que j'aille vers la source pour avoir les réponses. Je crois que les Écritures nous donnent les enseignements nécessaires pour faire nos choix et prendre nos décisions dans le cas des familles monoparentales, dans le cas des veufs et des veuves, dans le cas des foyers mixtes et aussi dans le cas des célibataires dont on n'a pas demandé de traiter le sujet ce matin. Le problème n'est pas que les réponses ne s'y trouvent pas, car la plupart du temps, elles sont évidentes. Et si elles ne sont pas évidentes tout de suite, avec plus de temps, plus d'études, plus de réflexions, plus de prières, elles deviennent évidentes. Le problème est que souvent, nous ne voulons pas accepter les réponses que Dieu nous donne. Donc encore, c'est une question de volonté. Est-ce que je veux faire sa volonté ou la mienne? Est-ce que je veux? Comme un frère irlandais a dit, est-ce que je veux vouloir faire sa volonté? Prenons brièvement chaque cas. Pour le parent d'une famille monoparentale, de veuf ou de veuve, rester seul ou se marier pour son propre bien-être, pour le bien-être de ses enfants, doit être considéré à la lumière de ces quatre questions que j'ai mises en premier. Si c'est une question de remariage, le remariage doit être avec un chrétien. Là, je suis formel. Je vais répondre directement à la question. Dans mon cas personnel, quand j'ai pu considérer le remariage après le décès de ma première épouse, ce n'était pas question que je me remarie avec une non-chrétienne. Parce que je connaissais les Écritures. Je savais ce que disait l'apôtre Paul là-dessus. Ainsi, je voulais être conforme à la volonté de Dieu. Je le voulais pour moi-même, pour que je puisse être comme lui davantage. Mais aussi, je voulais une épouse chrétienne pour que mes enfants aient une mère chrétienne. C'est la même chose pour la question de dois-je travailler afin d'assurer le bien-être de mes enfants, rester à la maison et recevoir mes aides sociaux. Il faut que je considère cette question à la lumière de ces quatre autres questions que j'ai posées en première. Puis-je vivre avec mes parents afin d'arrondir plus facilement le mois doit être considéré à la lumière de ces quatre questions, parce que là, il y a d'autres vies qui doivent être considérées, pas seulement la mienne et mes enfants, mais les parents, tout ça. Ça peut compliquer les choses. C'est la même chose encore pour la question de « puis-je vivre loin d'une assemblée afin d'avoir un meilleur travail, une meilleure chance de travailler ?» Et là, je ne garde pas ma règle, c'est-à-dire je vais vous dire ce que j'y pense. Je crois qu'un chrétien ne doit jamais s'éloigner d'une assemblée. Voilà. On a besoin les uns des autres. La question de base reste, comment puis-je mieux servir le Seigneur dans mes circonstances actuelles? Et si je change mes circonstances, quel effet cela aura-t-il sur mon service au Seigneur? Dans le cas de famille monoparentale, il y a eu probablement décès, divorce, séparation, où la personne ne s'est jamais mariée, comme j'ai dit. Dans le cas de divorce, la personne va considérer les enseignements de Jésus sur la question de divorce pour voir si le remariage est même une question. pour le parent chrétien qui n'a jamais été marié, tout comme c'est le cas pour le célibataire, il faut considérer l'enseignement de Paul sur le choix d'un partenaire chrétien. Pour les chrétiens qui se trouvent dans un couple mixte où le partenaire ne partage pas sa foi, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont donné des instructions assez détaillées. Il s'agit peut-être de deux circonstances possibles. Il y a d'abord le cas du chrétien célibataire qui a choisi de se marier avec un non-chrétien malgré l'enseignement de Paul de se marier avec quelqu'un qui partage sa foi. Et puis, si c'est votre cas, vous devez accepter donc la responsabilité et les conséquences de votre mauvais choix, parce que je le dis bien, je trouve que c'est un mauvais choix, et faire de votre mieux quand même pour vivre votre spiritualité selon la volonté de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Nous tous, nous devons les aider à vivre leur foi dans les circonstances où ils se trouvent. Ils ont même fait un mauvais choix. Ils sont là-dedans maintenant. Il ne faut pas les abandonner. Il faut rester avec et les aider. Il y a ensuite la personne qui s'est convertie après son mariage et son conjoint n'a pas été converti. Dans les deux cas, le chrétien doit chercher à rester dans la relation et ne pas chercher à s'échapper. Et en même temps, il doit faire de son mieux pour vivre sa foi dans ces circonstances actuelles. Cela veut dire qu'avec beaucoup de prières, d'études de la parole et avec beaucoup de méditation, le chrétien fait tous ses efforts pour avancer toujours ensemble avec le Seigneur et avec ses frères et sœurs, malgré les grandes difficultés qui peuvent lui arriver. Cela ne sera pas du tout facile, mais c'est cela, vivre selon l'alliance de Dieu. L'alliance qui aide la personne à se transformer de façon qu'elle puisse vivre son alliance conjugale tout en espérant et priant que son conjoint accepte le Seigneur un jour et que ses intérêts fusionnent avec les intérêts de Dieu. Et ainsi, on peut vraiment fusionner les intérêts du couple ensemble. Parce que je m'appelle quelque chose que Max a dit il y a des années. Je ne sais pas à quelle époque Max est avant plus qu'à. Il a dit, et je ne sais pas si je cite exactement, je ne peux pas imaginer être intime à 100% avec une personne qui ne partage pas ma foi. À peu près. Et c'est vrai. Mais on espère, dans le couple mixte, qu'un jour, le conjoint ou conjointe, est-ce qu'on dit conjointe? Non, oui. Accepte le Seigneur et qu'on puisse ainsi être à 100% intime et uni dans le mariage, aussi bien qu'avec le Seigneur. Donc je vous encourage vivement à lire les passages que j'ai marqués en bas de la feuille et les considérer à la lumière de votre alliance avec Dieu. Si vous le faites, Dieu vous bénira et vous transformera davantage à son image. Que Dieu vous bénisse. Amen.